Direct en jeu, la radio insolite prend ses quartiers d'été à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, imaginez. Vous avez peut-être vu la photo d'hier soir quand j'étais en bord du lac, au Grand Port, et que j'étais en train de rêver. Et là, attention, je suis avec, alors je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, là. 2000 ans, c'est ça ?
2000 ans d'histoire, c'est ça.
Tu n'as pas 2000 ans ?
Non, j'ai pas 2000 ans, merci.
Bonjour, à qui ai-je le plaisir ?
Amélie Pilon, donc je suis guide conférencière au service Ville d'Art et d'Histoire pour la ville d'Aix-les-Bains.
Guide conférencière. Tu guides et tu conférences.
Voilà, des visites guidées, quoi. En ville, au musée, au casino, un peu partout.
Alors, nous sommes ici à Aix-les-Bains. Alors, la première question, évidemment, je suis sûr que tu l'attends avec impatience.
Je sais pas, dites-moi.
Il y a 2000 ans, comment s'appelait Aix-les-Bains ?
Ça, c'est... Alors,
j'ai précisé qu'on a déjà fait la visite. Évidemment, il y a une chose que je sais qu'elle a dit. Bah, c'est normal. Alors.
On ne sait pas comment s'appelait la ville d'Aix-les-Bains il y a 2000 ans. On connaît le nom des Aixois, les habitants d'Aix-les-Bains il y a 2000 ans, c'était les Aquenses. Donc on suppose qu'il y avait une histoire d'eau déjà dans le nom de la ville, Aquae, mais il devait y avoir un autre mot à côté puisqu'il y a beaucoup d'Aquae dans l'Empire romain. Dès qu'il y a une ville avec un peu d'eau, c'est une Aquae. Donc voilà, on ne sait pas le nom de la ville d'Aix à l'époque romaine, donc on préfère ne pas s'avancer comme on a pu le faire précédemment dans l'histoire. On parle d'Aix à l'époque romaine.
On parle beaucoup d'Aix en disant que c'était les eaux thermales, c'était pas les curistes, on dit comment, les
baigneurs. Les baigneurs.
Pourquoi les baigneurs ?
Baigneurs et buveurs d'eau parce que ils se baignaient et ils buvaient l'eau thermale.
Merci, c'est bon, c'est clair.
Tout simplement, donc voilà, le mot de curiste a vraiment été mis en place plus tard, à partir de 1946, avec la sécurité sociale qui rembourse les cures.
Alors ici, on est, il y a 2000 ans, on était dans une contrée, dans un secteur, comment est-ce qu'on appelle ça ? Les Allobroges, c'est ça ?
Voilà, sur le territoire des Allobroges. Donc c'est un des peuples gaulois. Et donc ce peuple Allobroge est arrivé dans la région entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Perdra une grande bataille contre les Romains en 121 avant Jésus-Christ. Et donc les Romains occupent l'Allobrogie à partir de 121 avant Jésus-Christ.
Ce qui est très original, c'est qu'on est carrément sur la droite, on a la mairie d'Aix, et puis là on a un arche.
L'arc de Campanus, c'est un arc funéraire, donc en mémoire des défunts de la famille d'un homme qui s'appelle Lucius Pompeius Campanus.
Et c'est pas un arc de triomphe, parce que ça j'ai trouvé très très original ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. C'est quoi la différence entre
un arc funéraire et un arc de triomphe ? Alors un arc de triomphe, ça a trois arches. Traditionnellement, dès l'époque romaine, comme celui qu'on trouve, qui a été construit beaucoup plus récemment à Paris. Donc il faut trois arches pour faire un arc de triomphe. Et là, comme on n'en a qu'une seule dès l'origine, c'est un arc plutôt dit funéraire, en mémoire des défunts de la famille.
Ça n'a rien à voir avec une porte d'entrée à la ville ?
Alors, pas une porte d'entrée à la ville. Ça pouvait être une porte d'une aire sacrée ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ça a été construit par un homme, Lucius Pompeius Campanus, pour les défunts de sa famille. Ça devait être quelqu'un d'important et de riche, mais c'est une construction, on va dire, d'un particulier.
Aix-les-Bains a évolué de quelle manière dans le temps ?
Alors, au Moyen-Âge, c'est très calme. C'est une petite bourgade. On a oublié le bienfait des eaux thermales. La renommée lointaine des eaux thermales a complètement été occultée. On avait les marquis d'Aix-les-Bains qui avaient un château ici. Ils en avaient plusieurs. La ville va vraiment, on va dire, reprendre vie et retrouver une renommée grâce, encore une fois, à ses eaux à partir de la fin du 18e, début 19e siècle.
Bon, la question compliquée maintenant. Es-tu prête ?
Allons-y.
France, Savoie, Italie.
C'est méchant.
Direct en jeu, la radio insolite. Elle se demandait au début, mais quel type de questions il va me poser ? Toujours des questions insolites qui sortent de l'ordinaire.
Alors,
je repose la question. France, Savoie ou Italie ?
Pas Italie, c'est sûr. Savoie pendant longtemps, puis France.
Oh, c'est marrant parce que tout le monde est persuadé que la Savoie était italienne.
Ah, me fâchez pas.
Ça y est. Non, mais pourquoi est-ce que les gens pensent... souvent, on dit Savoie Piémont, et donc la réalité, la tradition, c'est de se dire que ça devait être italien auparavant.
Alors, parce qu'une partie de l'Italie était savoyarde, mais ça ne veut pas dire que la Savoie était italienne. C'est l'inverse. Donc, en fait, pendant très longtemps, on a fait partie des États de Savoie, qui étaient des États indépendants, entre le XIe siècle et jusqu'en 1860. Et Chambéry a été la première capitale des États de Savoie. Et au XVIe siècle, on va transférer la capitale à Turin. mais ça s'appelle toujours les États de Savoie. On est toujours dans le duché de Savoie. Et ce n'est qu'en 1860 donc, que la Savoie va devenir française. L'Italie n'existe pas encore, donc c'était encore les États de Savoie au moment du transfert. L'État d'Italie sera déclaré existant en 1861, donc la Savoie n'a jamais pu être italienne. Impossible.
La liaison entre France et Savoie, parce que souvent on dit que la Savoie c'est un peu comme l'Alsace, c'est un peu comme le Pays Basque, c'est autre chose, un autre univers.
Alors, on a des indépendantistes, hein, comme partout, mais je pense pas que ce soit totalement pareil, parce qu'on n'a pas été ballottés 50 fois non plus. On était Savoyards, on a été occupés plusieurs fois par les Français au cours de notre histoire avant 1860, hein, de devenir totalement Français. Mais après, voilà, je pense que c'est important aussi, c'est qu'en 1860, quand la Savoie va devenir française, ça a été ratifié par un référendum auprès des Savoyards. Ils ont dit oui pour devenir Français avec Napoléon III. C'est important.
Ils ont dit oui en très grande majorité.
Oui, en très très grande majorité. Alors il y a toujours les rumeurs, ça a été truqué, tout ça. Oui, mais ça n'empêche que c'était dans notre intérêt de devenir français.
Pourquoi ?
On était, par rapport à l'État d'Italie qui était en train de se créer, pas du bon côté de la barrière naturelle des Alpes. Il y avait la barrière de la langue, alors qu'en Savoie, on a absolument toujours parlé français. Les Français nous avaient occupés très souvent, donc on se connaissait bien. Ça aide aussi. Et puis Napoléon III nous avait promis de débloquer pas mal d'argent pour nous aider à rentrer dans le progrès avec le chemin de fer, tout ça. Argent qu'il a débloqué, hein. Attention, il faut le souligner quand même. Les promesses ont été tenues. Et donc voilà, c'était quand même intéressant pour nous de devenir français à cette époque-là.
Et à un moment donné, Aix-les-Bains se transforme en annexe de la ville de Londres.
Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire ça.
C'est une manière que j'ai de poser la question, quoi.
En effet, on va voir passer énormément d'anglais. À Aix-les-Bains. Alors ça va commencer très tôt avec le Grand Tour, ce tour que faisaient les enfants des riches familles anglaises et britanniques avant de rentrer dans la vie active notamment. Donc ils faisaient un tour sur le continent, la côte atlantique, les Pyrénées, la côte d'Azur, parfois un petit tour sur les terres d'Italie et retraverser les Alpes pour remonter. Donc ils vont découvrir les Alpes, l'alpinisme, hein, les Anglais en sont les pionniers. Et puis, ils vont beaucoup se plaire dans les villes d'eau, des villes extrêmement festives, où il fait bon vivre, le climat est évidemment plus doux qu'en Angleterre. Et donc, on a beaucoup d'Anglais qui vont également venir y passer leur retraite, ou y venir pendant la période de la saison. Et du coup, beaucoup, beaucoup d'Anglais vont venir là. Des médecins anglais vont parler des bienfaits des eaux d'Aix-les-Bains en Angleterre. Et puis, la reine Victoria, qui viendra avec sa fille, la princesse Béatrice, qui fait les cures, trois fois, en 1885, 87 et 90. C'est la consécration, évidemment. À cette époque-là, la reine Victoria est la personne la plus puissante au monde. Elle vient là, évidemment. Tous ses compatriotes vont marcher sur ses pas et passer par Aix-les-Bains.
Est-ce que c'est vrai que quand ces têtes couronnées venaient, ou ces gens assez réputés venaient, ils prenaient des noms d'emprunt pour rester un peu tranquille ?
Oui. Certains, oui. Certains venaient incognito. Alors, ce n'était pas uniquement pour être tranquille. C'était aussi parce que s'ils venaient en tant que chef d'État, il allait y avoir tout un protocole avec des cérémonies protocolaires d'accueil, des visites de chef d'État, de tout ça. Que s'ils viennent sous un nom d'emprunt, ils sont incognito, on leur fiche la paix et il n'y a pas tout ce cérémoniel. Voilà, ils viennent en vacances.
Bon, on attaque la partie la plus sympathique maintenant.
Allez,
prête
à l'attaque.
Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Donc, on est à côté de la mairie, on est devant les anciens thermes d'Aix-les-Bains, on est sur 2000 ans d'histoire, et pourtant, on a l'impression qu'on a un mix entre l'ancien et le moderne.
Totalement. C'est ce qui fait la magie d'Aix-les-Bains, c'est que c'est des strates d'histoire qui sont posées les unes à côté des autres ou les unes sur les autres. Donc en effet, sur cette place, par exemple, on a la période romaine avec l'arc dont on a parlé, on a le temple qui est juste à côté, la mairie qui est Moyen-Âge, Renaissance et très remaniée au XIXe siècle, tous les bâtiments autour de nous qui sont XIXe ou début XXe siècle, les thermes qui sont des années 1930. C'est une ville qui est en constante évolution et c'est parce que c'est une ville d'eau. Vous allez retrouver ce genre de choses dans toutes les villes d'eau. C'est parce que c'est les gens qui venaient dans les villes d'eau, les baigneurs, étaient des gens riches, aisés. Et ils étaient habitués à s'amuser, à se détendre, se divertir dans des lieux à la mode. Et la mode change. Et donc on a les bâtiments, les esthétiques qui vont changer au fur et à mesure du temps qui passe. On ne va pas forcément raser tous les anciens non plus. Et donc c'est comme ça qu'on va se retrouver avec ces strates de différentes périodes, de différents styles architecturaux.
Allez, une dernière question, mais ce qui est assez original, c'est que, à la différence d'Annecy, Aix-les-Bains n'est pas sur le lac.
Pas du tout. En effet, on a entre le centre-ville et le lac à peu près 3 km, 3 km et demi de distance, puisque pendant très longtemps, le lac a été un voisin très très gênant. Il est relié naturellement au Rhône par le canal de Savière, et habituellement le lac est un affluent du Rhône par le canal, mais le canal n'a quasiment pas de pente. Et donc quand le Rhône débordait, le sens du courant s'inversait, le Rhône remplissait le lac et donc le lac débordait aussi. Et le problème n'a été réglé avec une écluse que dans les années 90, c'est très récent. Donc c'est pour ça que la ville, historiquement, s'est développée loin du lac et surtout sur la vraie richesse de la ville, les eaux chaudes.
Et comment on faisait pour aller d'Aix-les-Bains à Lyon avant?
Par le lac. Par le lac. Le canal...
Oui, mais il y a un mais.
Alors oui, c'était très long, puisque jusque dans les années 1860, il n'y avait pas encore la liaison ferroviaire entre la Savoie et la France. Et donc, en effet, le terminus du train était soit à Culose, soit côté Savoie à Aix-les-Bains. Et donc, pour rejoindre la France et Lyon notamment, bah, c'était le bateau. Donc, c'était lac du Bourget, canal de Savière, Rhône. Donc là, ça va, on descendait le courant. Donc, ça pouvait aller relativement vite. On devait mettre, on va dire, entre 12 et 15 heures. Mais pour remonter le courant, c'était pas la même. On pouvait mettre, selon le courant, voilà, jusqu'à 20, 24 heures facilement.
Allez, la der des der, mais elle est tellement importante, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les circonstances atteignantes qui font que tu as un vrai métier passion?
C'est une excellente question, je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai toujours aimé ça, l'histoire, le patrimoine, c'est une passion depuis toute petite. J'ai fait des études d'histoire de l'art, j'aimais les langues étrangères aussi. Et donc le contact avec les gens, tout ça, c'est le métier idéal pour tout conjuguer.
Et c'est un vrai métier à part entière.
C'est un vrai métier à part entière. Moi, je suis embauchée par la ville d'Aix au service Ville d'Art et d'Histoire. Donc, j'ai à la fois des heures au bureau où je m'occupe de la documentation, des recherches, des organisations de visites, tout ça. Et puis, guide, évidemment, à côté. C'est le plus sympa, on va dire.
Direct en jeu de Radio Insolite, nos quartiers d'été à Aix-les-Bains. Je peux vous dire que là, on est que au quatrième jour de notre présence. Je me demande comment je vais faire pour repartir fin août, début septembre. Dites au Tour de France que je n'y vais pas. Je ne vais pas à Nice, je reste là, c'est trop bien. Je te remercie.
Avec grand plaisir, merci à vous d'être venu nous voir.